Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. En tant que soignant, on appréhende toujours de passer de l'autre côté de la barrière. Marine a vu sa vie basculer à la fin de sa grossesse où un diagnostic de cancer vient perturber sa santé et celle de son bébé. Un témoignage touchant que je suis honorée de vous présenter aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Marine.
Bonjour Marielle.
Comment vas-tu?
Ça va, merci.
Alors, je suis très contente de te recevoir Marine aujourd'hui. C'est toi qui m'as contactée par mail pour, j'ai pas d'autre mot, te confier hein, vraiment sur quelque chose qui t'est arrivé et qui a, je l'imagine, dû beaucoup changer ta vie. C'est un sujet que je souhaitais aborder depuis longtemps, le fait d'être soignant et puis de passer de l'autre côté de la barrière, c'est l'expression que j'emploie souvent, quelque chose qui doit être compliqué à plein d'égards. Donc je suis très contente de te recevoir et je suis très heureuse surtout que tu prennes le temps de nous raconter ça, je me sens très chanceuse aussi. Donc voilà, merci pour ça et je te laisse te présenter Marine et commencer à nous raconter ton histoire.
Alors du coup, je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, je suis infirmière depuis 2011, donc 11e année en tant qu'infirmière. Et j'habite en région parisienne et je travaille dans un hôpital à Paris en réanimation polyvalente et de chirurgie cardiaque. Voilà, je suis infirmière coordinatrice, donc c'est des missions un peu transversales. J'ai plus vraiment de patients en charge. Je fais des missions de formation, de recrutement, de gestion de personnel, voilà, un peu transversal. Et du coup, je suis maman de deux petits garçons, donc un qui a eu 5 ans et un autre qui a 10 mois, voilà.
Oh ouais, un petit chou.
C'est ça.
Donc, l'histoire de vie que tu vas nous raconter, elle intervient pendant ta deuxième grossesse, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça?
C'est ça. Pendant ma deuxième grossesse, sur le début de mon septième mois, j'ai ressenti des symptômes qui m'ont un petit peu alertée. Enfin, au début, je me suis dit « Oh, ça va passer ». On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc voilà. J'ai eu tendance un peu à minimiser, donc j'étais très fatiguée, très essoufflée. Je me suis dit « Oh, c'est la grossesse, on est essoufflée, etc. » Bref, j'ai un peu mis sur le compte de la grossesse. Et au final, les jours passaient, vraiment ça n'allait pas, donc je me suis dit « Bon, fais quand même un petit check, t'as un tensiomètre à la maison, t'as de quoi prendre une fréquence cardiaque, regarde quand même. » Et du coup, j'ai vu qu'au repos, après 2 heures dans le canapé, j'étais à 130 de fréquence cardiaque, donc je me suis dit « C'est pas possible, il y a un problème. » Donc, du coup, j'étais aux urgences gynécologiques, enfin maternité, là où j'étais suivie à l'hôpital. Ils m'ont fait toute une batterie d'examens parce qu'au début, comme moi, c'est ce qui m'a fait consulter, je pensais que je faisais une embolie pulmonaire. Et eux aussi. Donc, du coup, j'ai fait un scanner, des prises de sang, vraiment toute une batterie d'examens. Et au début, sur la prise de sang, il n'y avait rien de particulier. Et sur le scanner, ils ont vu qu'il y avait des lésions pulmonaires. Sauf que au scanner, un petit peu difficile de savoir vraiment ce que c'était. Donc, ils ont essayé un petit peu de chercher. Donc, au début, ils ont voulu me faire une fibroscopie. Donc, en fait, une fibroscopie, c'est un examen où on introduit une petite caméra par le nez. Pour aller voir, on peut faire des fibroscopies bronchiques ou digestives. Donc moi, c'était bronchique, c'était pour voir les poumons. Sauf que comme j'étais enceinte, c'était compliqué de me faire une anesthésie générale. Donc ils me l'ont fait vigile, ça veut dire réveillée. Et c'est un examen que j'ai très mal vécu. Donc ça a été très compliqué. Ils n'ont pas pu faire l'examen, on a dû arrêter avant. J'avais un réflexe nauséeux qui était très très présent. Et du coup, l'examen impossible, c'était même plutôt dangereux. Donc, on a arrêté. Ils ont fait des tests sur les prises de sang. Ils ont cherché tous les marqueurs de cancer, etc. pour, du coup, essayer de faire un diagnostic, vu qu'il n'était pas possible de voir les lésions avec la fibro. Entre-temps, bien sûr, j'avais été hospitalisée. Donc, il s'est passé 2-3 jours. La prise de sang, elle a été faite le vendredi. Les résultats, c'est un petit peu long. Il faut compter bien 24 heures facilement. Et du coup, le samedi, quand j'étais dans ma chambre d'hôpital, donc le samedi, il faut savoir qu'en règle générale, c'est des médecins de garde, c'est pas forcément les médecins qui nous suivent dans le service et qui connaissent vraiment mieux notre dossier. Mais du coup, il y a une équipe, le matin, ça a toqué à la porte. Il y a plusieurs médecins qui sont rentrés. Et il y a un médecin que j'avais déjà vu, du coup, qui était pneumologue, donc c'est-à-dire spécialisé dans les maladies des poumons, etc. Et du coup, qui est rentré, elle a pris une chaise, elle s'est assise à côté du lit. Et j'ai dit, OK, c'est bon, j'ai compris. Je me suis dit, c'est bon, là, c'est une mauvaise nouvelle. C'est sûr et certain, on va m'annoncer un truc... qui va changer ma vie, quoi. Enfin, voilà.
Ouais, vu la façon dont elle se présente à toi, tu mesures tout de suite la gravité de ce qu'elle va t'annoncer.
C'est ça. Quand je la vois prendre une chaise, s'asseoir à côté du lit, je me suis dit, OK, elle vient pas juste pour prendre... Enfin, elle vient pas prendre le café, quoi. Enfin, j'avais compris. Et du coup, elle m'explique que, en fait, grâce aux prises de sang qu'on a fait et tous les dosages des marqueurs qu'ils ont pu effectuer, les lésions qu'ils ont vues au scanner, c'est des lésions tumorales, donc des métastases. Ça veut dire des localisations secondaires d'un cancer. Mmh. Et que mon cancer primitif, c'est un choriocarcinome. Donc, c'est quelque chose de très rare qui survient soit pendant une grossesse, soit, par exemple, sur une IVG ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une tumeur gestationnelle. Ils ont dosé les bêta-HCG. C'est le même dosage qu'on fait pour savoir quand est-ce qu'on est enceinte. Est-ce qu'on est enceinte ?
Si on est enceinte, ouais.
Voilà, sauf que j'étais enceinte de 7 mois et en règle générale, les bêta-HCG décroissent au fur et à mesure de la grossesse.
D'accord.
Et moi, mon dosage, il explosait tous les scores. Et en fait, ils ont fait le lien entre les deux, entre les images du scanner et les prises de sang. Et du coup, le diagnostic, il était posé comme ça. Il n'y avait même pas besoin d'aller plus loin, quoi.
D'aller plus loin. Oui, c'est quelque chose que certaines personnes parfois ne réalisent pas. Mais c'est vrai que pour poser un diagnostic, on a besoin de l'imagerie médicale, une radio, un scanner, une IRM. Et puis qu'on associe alors à l'état clinique du patient, les symptômes qu'il peut avoir et aussi à des prises de sang, des résultats. Et donc, c'est en combinant toutes ces informations qu'ils arrivent à ce diagnostic pour toi.
Tout à fait.
On t'explique tout de suite ce qu'est la tumeur, comment elle s'est produite, comment elle est arrivée là, etc.
Alors du coup, elle me dit donc vous avez un choriocarcinome et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça.
Ouais.
Je lui dis j'en ai jamais entendu parler. Enfin, je connais pas les métastases pulmonaires. Ok, ça me parle, mais qu'est-ce que c'est qu'un choriocarcinome? Et du coup, elle m'explique qu'en fait c'est une tumeur du placenta. Donc en fait, ça s'est créé pendant la grossesse. On ne sait pas à quel stade. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est il y a quelques semaines? Ça peut être décelable à l'échographie, mais moi, sur mes échographies de suivi de grossesse, ils les ont toutes repassées au crible. On ne voit rien du tout, je ne sais rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment passé à la trappe. Mais voilà, elle m'explique que le diagnostiquer à mon stade de grossesse, c'est très rare, qu'en règle générale, c'est plutôt en début de grossesse ou voilà, sur des interruptions de grossesse. Et que sur des grossesses, j'étais presque à terme. Hein, j'étais à 30 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, il me restait 2 mois et demi. Et voilà, elle m'explique que c'est très rare, mais elle m'explique tout de suite que ça se traite comme un cancer et que du coup, le traitement, ça va être de la chimiothérapie. D'accord. Et en fait, moi, ma première question, c'est et mon bébé, en fait. Comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va être viable malgré tout ça, en fait? C'était vraiment ça, mes interrogations. Tout de suite, ça a été plutôt mon bébé que moi, ce qui allait vraiment se passer pour moi, quoi.
Complètement. Toi, tu étais déjà en arrêt maladie à ce moment-là?
Eh bien, en fait, je venais d'être arrêtée.
Congé maternité, je dirais.
Encore en congé maternité. J'avais été arrêtée un mois avant le début de mon congé maternité. Et en fait, ça faisait 15 jours que je travaillais plus, quoi. Vraiment, ça s'est fait tout de suite.
Donc on t'explique ce que ça engendre, est-ce que c'est un autre médecin qui intervient pour t'expliquer ça ou est-ce que c'est toujours cette
non,
médecin ?
Non, toujours cette personne, elle m'explique du coup ce que c'est, ce que ça engendre. Elle me dit que l'hôpital où je suis, même s'ils ont un service d'oncologie avec de la chimiothérapie, ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans, que c'est une tumeur qui est très rare.
D'accord.
Et que il faut aller voir des spécialistes. Donc c'est vrai que pour ça j'ai la chance d'habiter en région parisienne et du coup proche de Paris, donc on est entouré de beaucoup de spécialistes, dont des hôpitaux spécialisés dans la cancérologie. Donc elle m'explique rapidement qu'ils vont se mettre en contact avec une personne qui est vraiment spécialisée dans les tumeurs gynécologiques et du coup ma tumeur que cette personne connaît apparemment très bien. Et elle me dit, vous allez aller la rencontrer rapidement dans son hôpital. On était samedi, donc elle me dit, on va organiser ça pour lundi. Et voilà, on va vous mettre en contact avec elle. Et c'est elle qui va organiser la suite des événements.
Toutes ces informations, tu les as pendant cette discussion avec cette médecin?
Et oui, il faut savoir que les planètes s'alignent pas vraiment puisque je suis toute seule. Mon conjoint, il est en séminaire professionnel, donc il a pas pu. Enfin, il m'a rejoint quelques heures après, mais en tout cas le samedi matin, quand on me fait le diagnostic, il est pas là.
Il est pas là. Ouais.
Normalement, je suis très entourée par mes parents, mais enfin, je veux dire, il était 10 heures du matin, ils étaient pas là encore non plus, donc je suis vraiment toute seule. Ils sont 4-5 médecins, la pneumologue, l'interne de gynéco, la sage-femme. Et ouais, je me prends le tsunami de ma vie, quoi.
Toute l'annonce, puis on te parle déjà voilà, de la suite des événements,
Et
de
oui.
Ce qui va se passer, qu'il va falloir changer d'hôpital.
C'est ça.
Toi, tu te fais un souci monstre pour ton bébé. Et oui, je comprends que ça soit ta priorité à ce moment-là, ça s'entend complètement.
C'est ça.
Et tu sens que les choses se mettent en place, qu'il y a une urgence dans la prise en charge. On te parle déjà du lundi suivant pour aller...
Je comprends rapidement que plus ce sera traité vite, meilleures seront mes chances. Je comprends rapidement que vu l'état d'avancée où j'en suis, vu qu'il y a déjà des métastases, je comprends vite que vu mon jeune âge, etc., qu'on va pas tourner autour du pot et qu'il faut vraiment y aller, quoi.
Avec le recul que tu as vis-à-vis de cette situation maintenant, est-ce que tu peux dire que l'annonce et que tout ce qui t'a été donné comme information à ce moment-là a été fait de façon adaptée, ou est-ce qu'il t'a manqué quelque chose de l'humanité, des informations, je sais pas ou...
Non, franchement, ça a été le diagnostic, il a été clair. Après, voilà, de par ma profession, on m'a dit tumeur, on m'a dit cancer. Enfin, dans ma tête, les lumières, elles se sont allumées tout de suite.
Oui, bien sûr.
J'ai pas eu tellement besoin qu'on rentre dans les détails qu'est-ce que c'était qu'une chimiothérapie, qu'est-ce qu'il allait se passer pour moi. Très franchement, enfin, voilà, je l'ai compris tout de suite. Le fait qu'on me dise que j'allais être transférée dans un institut vraiment spécialisé en cancérologie, ça m'a un peu rassurée. Je me suis
Bien
dit
sûr.
Que j'allais être au bon endroit avec des gens qui font ça toute la journée. Et forcément, on est très bon que dans ce qu'on fait régulièrement. Donc, je me suis dit, je vais vraiment être au bon endroit. Voilà, ils sont vraiment... J'ai senti que vraiment, ils prenaient mon dossier... de manière prioritaire et que voilà, ils allaient m'accompagner et qu'on allait y arriver, quoi.
Le fait d'être infirmière à ce moment-là t'aide à décrypter déjà les informations qu'on te donne. En effet, hein, des mots comme tumeur, c'est vrai que quand on n'a jamais entendu parler de ça et qu'on n'est pas du milieu, ça peut être soit l'inconnu total, soit complètement effrayant. Enfin, on peut passer par toutes les émotions. Et est-ce que tu sens que le personnel s'adresse à toi en ayant conscience que tu es infirmière? Ils utilisent des mots peut-être différents?
Ils emploient le vocabulaire vraiment avec les termes médicaux adaptés. Et je comprends qu'on me parle presque d'égal à égal. Ils m'expliquent vraiment les choses de manière pointilleuse, avec des termes adaptés. Ils ne m'infantilisent pas du tout. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est agréable de pouvoir échanger. Vraiment, on voit qu'on parle de la même chose. Et c'est vrai que c'est chouette. Et grâce à mon métier, c'est sûr que ça m'a aidé à mieux comprendre les choses. C'est sûr et certain.
Donc le lundi, le protocole démarre.
Eh bien, avant le protocole démarre, étant donné que au niveau de mes échographies, du coup, j'avais des surveillances vu que j'étais hospitalisée. On surveillait très près mon bébé. On faisait des monitos, on surveillait son activité électrique cérébrale, etc. Voilà.
D'accord.
Et en fait, les choses, du coup, j'avais 2-3 monitos par jour assez rapprochés avec des échographies, etc., pour voir que lui ne souffre pas trop de cette situation. Et en fait, le dimanche matin, les choses se sont un peu accélérées. Parce qu'au départ, le projet, c'était de me faire la chimiothérapie enceinte. On m'avait dit que les deux étaient compatibles. Enfin, pas tous les médicaments de chimiothérapie, mais moi, la chimiothérapie qui était envisagée pour moi, c'était possible de faire les deux.
D'accord.
Et en fait, les choses se sont dégradées voilà, le dimanche matin pour mon fils. Et du coup, ils ont décidé de faire une césarienne en urgence. Donc, le dimanche, en début d'après-midi, ils m'ont descendu au bloc opératoire et ils ont fait naître mon fils. Du coup,
30 semaines d'aménorrhée.
30 plus 4, ouais. 30 semaines
plus
4, d'aménorrhée,
okay.
Plus 4. Donc, pareil, ça a été de nouveau... on a été très entourés médicalement parlant. Puisque du coup, un bébé qui naît prématurément 2 mois et demi avant, donc on nous a expliqué tout ce qui allait se passer pour lui, qu'il allait avoir du monde dans la salle parce qu'il allait avoir un pédiatre pour pouvoir le réanimer tout de suite à sa sortie. Faut savoir que 30 semaines d'aménorrhée, en fait, on est à cheval entre la grande prématurité et la, un peu l'entre-deux, en fait. C'est, c'est une, voilà, c'est un terme qui est, voilà, on sait plus de la très grande prématurité, mais ça reste quand même un bébé qui naît largement avant le terme. Et du coup, il y a tout ce qui est, tout le souci au niveau de la respiration, avec la maturation des poumons, etc. Ils avaient déjà préparé le terrain en amont en se disant que peut-être qu'ils seraient amenés à le sortir en urgence. Donc, j'avais reçu des injections de corticoïdes en intramusculaire.
Pour faire maturer ses poumons plus
pour
vite.
Pour faire maturer ses poumons dans... Voilà, ils avaient préféré le faire... voilà, on avait déjà reçu la visite du pédiatre en amont qui nous avait expliqué ce que c'était que la réanimation néonatale, comment ça s'organisait, etc. Donc, voilà, ils avaient plutôt bien fait les choses. Mais le dimanche, ils nous ont quand même fait une petite piqûre de rappel en nous disant, bah, écoutez, ça va se passer comme ça. Vous n'allez peut-être pas voir votre bébé tout de suite. Voilà.
Et comment vous vivez du coup avec, avec ton mari cette naissance très très prématurée, hein, même si on ne parle plus de grande prématurité, dans 2 mois et demi avant, c'est quand même très tôt.
Et bah, on la vit, on est ravis de rencontrer notre fils, hein, on l'attendait, mais c'est vrai que c'est trop tôt, quoi. C'est vrai qu'on n'était pas prêt à ce que ça arrive aussitôt. Après, l'équipe, elle est très bienveillante, on est hyper bien accompagnés. J'ai pas de césarienne sous anesthésie générale, j'ai une péridurale et une rachianesthésie, donc je suis éveillée. Et du coup, bah, ça me permet quand même de participer à la naissance de mon fils. Après, voilà, c'est une césarienne qui est mouvementée, qui dure très longtemps. Je perds pas mal de sang, donc j'ai besoin d'être transfusée. Ma tension, elle est très basse, du coup, avec la perte de sang. Donc, ils ont besoin de mettre des médicaments pour maintenir une tension correcte, donc ce qu'on appelle des catécholamines. Voilà, donc voilà, césarienne mouvementée. Mais notre fils, il naît, il pleure, on arrive à le voir. Donc, c'est, pour nous, c'est un petit peu c'est rassurant.
Malgré les circonstances, c'est une naissance qui se déroule pour lui bien et avec un suivi qui se déroule comme ce qui était prévu.
C'est ça. Tout de suite, il est pris en charge par les médecins et ils nous le présentent. Ils prennent quand même un peu le temps de nous le présenter. Et ensuite... Il est emmené dans une petite pièce à côté pour faire les premiers soins. Après, moi, c'est vrai que sur cette partie-là, j'ai un peu perdu la notion du temps. Je ne me rends plus trop compte, mais c'est mon conjoint, du coup, qui m'a raconté. Lui, il a pu aller le voir. Il est resté à ses côtés. Et en fait, du coup, il s'est vite fatigué au niveau respiratoire et ils ont besoin de l'intuber pour qu'il respire grâce à une machine. Sauf qu'il faut savoir que la maternité où j'ai accouché, c'est une maternité où il y a de la néonate, mais pas de réanimation néonatale. Donc, voilà, ils sont formés complètement pour faire les premiers soins, faire les gestes techniques, l'intuber, etc. Mais après, ils ne peuvent pas le garder. Donc, du coup, il a dû être transféré dans un hôpital avec une maternité de niveau 3. Et donc du coup voilà, il a été transféré quelques heures après sa naissance dans une maternité adaptée.
D'accord. Est-ce que toi tu arrives à le suivre physiquement, à repartir dans un service vers lui? Non, vous êtes séparés géographiquement.
C'est ça, on est séparés géographiquement. Moi je reste à Paris à la maternité vu que j'ai eu une césarienne en plus et que ça a été un petit peu compliqué. Je gagne une nuit en soins intensifs pour surveillance, des saignements, de la douleur, etc. Et lui il est transféré du coup en banlieue parisienne dans un hôpital avec une réanimation néonate.
D'accord.
Et voilà, mon conjoint y va, suit le SAMU et reste avec lui, mais moi je peux pas y aller.
Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Oh là là, et bah dis donc, et toi j'imagine que pendant la césarienne, on profite de l'occasion pour faire les biopsies, les prélèvements, pour en savoir plus sur la tumeur, etc. C'est pas juste une naissance, c'est aussi une intervention chirurgicale pour savoir ce qui t'arrive.
C'est ça, du coup le placenta entier, il est envoyé en analyse. Voilà, ils en profitent pour regarder également voilà, le placenta visuellement et également ils l'envoient en analyse pour étoffer un peu l'analyse médicale sur mon dossier, quoi.
D'accord, ok. Et ensuite, toi, le fait de ne... Alors maintenant voilà, que ton fils est en sécurité dans cet établissement, qu'il est pris en charge en termes de soins, on démarre un protocole plus poussé pour toi, pour te permettre de recevoir des traitements rapidement.
C'est ça. Du coup, le lendemain, j'échange avec l'oncologue sur le projet, sur mon projet de soins, et je peux pas la rencontrer physiquement parce que mauvaise gestion de timing, ils peuvent pas me transférer en ambulance, toutes les ambulances sont overbookées. Donc du coup, elle a la gentillesse de m'appeler et du coup, on échange par téléphone et elle m'explique que dès que c'est possible du côté de la césarienne et qu'elle a l'accord des gynécos, elle me fait transférer dans son hôpital pour commencer le traitement. Il faut
D'accord.
savoir que voilà, la césarienne, elle a été longue, donc les suites, elles ont quand même été assez douloureuses. J'ai eu un redon, donc c'est une petite bouteille qui est dans la cicatrice et qui permet d'évacuer les sérosités, le sang, etc. Donc du coup, tant que j'avais tout ça, c'était pas possible de me transférer au sein de son unité. Mais voilà, elle m'explique que dès qu'on est sorti un peu de la phase aiguë de la césarienne, ils me font transférer et qu'on commence tout de suite. Et du coup, donc j'accouche le dimanche et je suis transférée à l'hôpital dans le service spécialisé le mercredi. Et on commence la chimiothérapie le jeudi.
Eh ben, à peine remise d'une intervention chirurgicale, hein, parce qu'une césarienne, même si c'est une naissance et que c'est très beau, ça reste une intervention
C'est ça.
chirurgicale. 4 jours après,
C'est
le
ça.
traitement démarre. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là?
Mais franchement, tout s'est passé tellement vite que je crois que j'ai même pas le temps de réaliser, en fait.
Ouais.
Mais d'un autre côté, tant mieux, parce que du coup, j'ai pas tellement le temps d'y réfléchir, j'ai pas tellement le temps de me poser mille et une questions. Et en fait, je me dis, bah, du coup, faut y aller. En fait, y a pas le choix. Faut suivre les soins qu'on me propose. Et j'ai pas le temps de dire ouf. Et je crois que c'est mieux comme ça, parce que si j'avais eu le temps de trop m'interroger, ça aurait été encore plus difficile. Et là, les choses se font tellement rapidement que voilà, je suis le fil d'Ariane, je me dis bon bah go, on y va, c'est parti.
Tu te sens bien entourée, donc médicalement déjà, mais sur le plan personnel aussi, tu as du soutien de ta famille, de ton mari, voilà, pour le
Oui,
petit.
je suis hyper bien, j'ai la chance d'être vraiment super bien entourée.
Ok.
Mes parents sont présents, mon conjoint il est présent aussi. Voilà, les choses s'organisent aussi pour notre aîné qui, lui, bah, il y a école, la vie
Eh
continue
oui.
pour lui de son côté. Donc, les grands-parents de chaque côté s'organisent. Il y a un relais qui se met en place pour lui bouleverser le moins possible son quotidien et pour nous apporter aussi à nous l'aide nécessaire, voilà, l'aide nécessaire pour cette épreuve, quoi.
Ton fils aîné, du coup, il a 4 ans, 5 ans à
Cinq,
ce moment-là,
ouais,
5 ans?
4 ans,
4 ans?
ouais, c'est ça, 4 ans, 4 ans et demi.
Est-ce que vous lui parlez, vous lui expliquez ce qui t'arrive? Parce que j'imagine que ton absence l'inquiète aussi.
Alors, on lui a dit rapidement que son frère était né et qu'il était né prématurément, donc il pouvait pas le voir, etc. On a attendu un petit peu au niveau matériel médical, il en ait un petit peu moins pour lui montrer des photos. On a attendu qu'il ait plus la sonde d'intubation, qu'il ait juste un petit masque avec de l'oxygène. Et après, on lui a montré des photos et il a pu venir le voir aussi quelques
Ah,
fois.
super.
Et moi, de mon côté, on a attendu que je rentre à la maison. On a échangé au téléphone, on s'est appelé en FaceTime, etc. Mais on a attendu que je rentre à la maison pour vraiment lui expliquer les choses. Alors, les choses sont bien faites, hein. Maintenant, il existe énormément de choses pour les enfants sur le cancer. On a trouvé beaucoup de livres, voilà, sur, par exemple, une maman girafe qui a un cancer et du coup qui perd ses taches. Voilà, a
Ah,
fallu lui
ok.
expliquer que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais être très fatiguée, voilà, que physiquement, j'allais aussi un peu changer. Et avec l'approche, avec les livres, il a très bien compris, ça s'est très bien passé. Lui, sa plus grande interrogation, c'était la perte de cheveux. Le reste, il y a vu que du feu.
Ok, bon, tant mieux. Donc toi, ça y est, tu pars dans des soins qui... On te dit déjà dès le départ combien de temps le protocole va durer? Tu as une idée de la suite des choses?
Alors, on m'explique que je pars environ pour 3 mois de chimiothérapie. À raison d'une séance par semaine, donc on est vraiment sur une chimiothérapie intensive. On m'explique qu'il y a un médicament que je vais recevoir qui nécessite que je sois hospitalisée parce que il faut surveiller l'élimination rénale, comment notre corps réagit et il faut faire des bandelettes urinaires en fait. Donc
D'accord.
on m'explique ça. Donc voilà, une semaine où je pourrais venir en hôpital 2 jours, je fais ma séance de chimiothérapie, je pourrais rentrer à la maison. Et une semaine où j'aurais besoin d'arriver le matin, de dormir une nuit et je repartirai que le lendemain en fin de journée.
D'accord. D'accord.
Voilà.
Comment ça se passe pour toi, cette chimiothérapie? Psychologiquement, physiquement, comment tu te sens?
Physiquement, les premières séances, J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Et je pense qu'avec le temps, l'accumulation des produits dans le corps, etc., plus le temps avance, plus c'est difficile d'y aller et plus les effets secondaires se majorent. Au début, j'en ai pas du tout. Et après, au fur et à mesure, voilà, c'est l'escalade des effets secondaires. Il y en a sans arrêt un nouveau et sans arrêt une complication supplémentaire. Mais c'est vrai qu'au début, très franchement, les deux, trois premières, ça s'est très, très bien passé. Et voilà, après, c'est plus compliqué. Et du coup, on a l'appréhension de se dire, oh là là, la semaine dernière, j'ai eu ça comme effet secondaire, mais qu'est-ce que je vais avoir cette semaine? Ça va être quoi la nouveauté, quoi? Voilà.
En parallèle, tu arrives à aller à l'hôpital pour rendre visite à ton fils. La chimiothérapie ne t'empêche pas de pas pouvoir t'y rendre, justement?
Eh ben non, on met une organisation militaire en place.
Ouais.
Quand moi je suis à l'hôpital et du coup que je dors à l'hôpital, je peux pas y aller. Du coup, mon conjoint il va tout seul. Et sur tous les autres jours, on y va tous les deux parce que du coup mon conjoint ne travaille pas, il est en congé paternité. Et du coup, on y va tous les jours ensemble. Et voilà, on y a été tous les jours, sauf quand moi j'avais la chimiothérapie ou sauf quand vraiment il y a eu des périodes où vraiment j'étais vraiment épuisée et c'était vraiment difficile pour moi d'y aller. Dans ce cas-là, j'y allais pas, mais très franchement, ça a dû arriver 3-4 fois.
Ok. Et pour ton fils, les choses évoluent dans le bon sens.
Ouais, c'est un petit guerrier. Il a été sur tous les plans, les voyants ont été ouverts très rapidement. Il
Ah,
a été
super.
autonome sur le plan respiratoire. Voilà, après, on nous avait prévenu dès sa naissance qu'en règle générale, les prématurés, on les hospitalisait jusqu'au terme environ. Donc, j'ai accouché le 28 novembre et lui, il était prévu pour le 9 février. Donc, on m'explique qu'au moins jusqu'à fin janvier, il va rester hospitalisé.
D'accord.
Voilà, donc, mais sinon, voilà, la seule petite difficulté, c'est sur le plan de l'alimentation, où il a besoin de la sonde d'alimentation parce que de boire le biberon, c'est encore très fatigant pour lui. Donc voilà, mais sinon tout le reste, tout va bien et du coup c'est très rassurant pour nous.
Est-ce que toi, ça te permet de t'accrocher, voilà, à quelque chose qui te donne envie d'avancer? Est-ce que comment tu le vis, tout ça?
Ah oui, c'est sûr, je me dis que bah si lui il y arrive en étant né si petit, aussi en avance, je me dis que je suis obligée moi aussi d'y arriver, que j'ai deux enfants à la maison en bas âge, que j'ai 32 ans, que j'ai la vie devant moi et que voilà, ça peut pas s'arrêter là en fait.
C'est sûr. Donc les 3 mois de chimiothérapie finissent par se terminer.
C'est ça.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Du coup, les 3 mois de chimiothérapie, au final, ça a été un petit peu plus de 3 mois parce qu'il y a des séances qui ont dû être annulées parce que mes globules blancs étaient trop bas. Donc, il faut savoir qu'avant chaque séance de chimiothérapie, toutes les semaines, j'avais des prises de sang où on vérifie le niveau des globules blancs, le niveau des globules rouges, comment la fonction rénale, la fonction hépatique. Et voilà, il y a des limites basses qu'il ne faut pas dépasser, sinon c'est un seuil d'alerte et les médecins ne donnent pas le OK chimio et on ne fait pas la chimio. Donc voilà, j'ai eu plusieurs fois où mes globules blancs étaient trop bas, malgré des injections. Je faisais des injections pour stimuler les globules blancs. C'était trop bas, donc ils ont annulé les séances et a fallu les reporter. Donc forcément, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais la chimio, c'est fini, si je dis pas de bêtises, mi-avril. Notre fils, il est rentré à la maison fin février. Il a fait presque 3 mois d'hospitalisation. Et on m'explique que maintenant que la chimiothérapie est terminée, je vais devoir faire un suivi régulier de prise de sang au début toutes les semaines, au début tous les 15 jours. Et après, ça va s'espacer tous les mois et que je reviendrai voir l'oncologue au début tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Et qu'au fur et à mesure, les suivis vont s'espacer. Et que voilà, notre élément de suivi, c'est vraiment le dosage des HCG sur la prise de sang. Et que ça va
D'accord.
être ça notre surveillance principale.
D'accord, ok. Donc bien suivi de près pour voilà, pour voir que ce taux ne remonte pas
C'est ça.
comme tu avais pu le découvrir pendant ta grossesse.
C'est ça, tout à fait.
Bon, et alors comment tu vas aujourd'hui?
Eh ben, ça va. Tout va bien. Je suis en rémission, du coup, vu que j'ai vu l'oncologue au mois de juin, je crois, ou juillet. Je perds un peu fil dans les dates.
T'as
Mais
beaucoup de choses à suivre.
c'est ça. Mes prises de sang, les résultats sont bons. Voilà, le scanner, les lésions ont presque toutes disparu. Elle m'a expliqué que ça pouvait mettre du temps à disparaître. Donc, même s'il en reste, c'est pas des lésions du tout qu'on ira enlever de manière chirurgicale.
D'accord.
Voilà, le temps va faire son affaire des lésions pulmonaires, mais par rapport au premier scanner, c'est vrai qu'il en reste, il en reste très peu, donc c'est encourageant et positif. Et voilà, je retourne la voir au mois d'octobre, mais les nouvelles sont bonnes pour l'instant.
Oh,
Et
super.
Voilà, donc je vais reprendre bientôt le chemin du travail aussi pour moi.
Dans quel état d'esprit ?
Ben, je crois que je suis contente d'y retourner et en même temps, ma vision du métier, elle n'a pas changé. En fait, je me rends compte, j'ai toujours été persuadée que c'était très important d'inclure les patients dans leur suivi, dans leur diagnostic, d'inclure les familles et voilà, de vraiment beaucoup échanger, d'être dans la communication avec eux. Et je m'en rends encore plus compte là, à quel point c'est important d'avoir une équipe soignante qui prend le temps de nous expliquer les choses. Voilà, enfin, moi, de tout mon hospitalisation, de tout ce que j'ai vécu, j'ai vraiment été très bien pris en charge. On m'a tout expliqué, on m'a jamais mis de côté vraiment, et c'est une chance. Alors, est-ce que c'est ma profession? Est-ce que j'ai eu de la chance et que je suis tombée sur des gens vraiment bienveillants? Je sais pas, peut-être, mais vraiment, ça a été vraiment agréable d'être soignée dans ces conditions. Et du coup, voilà, je me rends compte que c'est dommage des fois qu'on manque de temps à l'hôpital parce que c'est vraiment important voilà, de prendre du temps pour échanger avec les gens, de leur expliquer, de re-expliquer s'il y a besoin. Et c'est pas toujours possible et c'est dommage.
C'est ce que j'allais dire, il y a pour l'avoir vu, moi en tant qu'infirmière, il y a des patients à qui on annonce des diagnostics difficiles et on a beau bien le faire de la bonne manière, en prenant du temps, il y a des gens qui sont parfois pas prêts à entendre certaines choses à un moment donné, ou qui vont avoir besoin de quelques jours pour digérer, pour réfléchir, pour avoir un millier d'autres questions qui vont arriver derrière. Et il faut, voilà, avoir le temps justement pour pouvoir revenir, recommencer et reprendre une conversation pour remettre les choses à plat.
Ouais, c'est ça. Et puis même l'entourage sur des maladies comme ça, l'entourage, il est hyper présent et eux aussi, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer pour leurs proches, comment ils vont être soignés, et quel effet indésirable, comment les proches peuvent les aider. Et c'est vrai que d'avoir du temps aussi pour échanger avec les familles, c'est important sur des prises en charge vraiment spécifiques comme ça. Et voilà, dans le quotidien à l'hôpital, des fois, c'est pas possible, mais faut tendre à vraiment essayer de trouver le temps pour le faire parce que c'est hyper important et ça permet vraiment pour le patient une prise en charge optimale.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, grand merci Marine. Et tes deux petits garçons vont bien aussi, rassure-nous.
Tout le monde va bien.
Oh, super.
Notre dernier a commencé la crèche la semaine dernière.
Oh,
il est en forme. C'est un bébé petit format. Donc, on a l'impression d'avoir un bébé depuis très longtemps. Mais sinon, il est en pleine forme. Il grandit bien. Voilà, son évolution, elle est parfaite. Et les médecins, tout le monde est très content. Donc, voilà, on est ravis aussi. Et notre aîné, tout va bien aussi.
Est-ce que, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais est-ce que le cancer aurait pu avoir des répercussions sur ton fils ?
Oui, tout à fait. Il a été suivi lui aussi, vu que du coup, c'était un cancer pendant la grossesse. Pendant ma grossesse, sur la fin de la grossesse, j'ai eu une petite complication où il y avait en fait son sang et mon sang qui rentraient en contact, alors que normalement, ça ne doit pas arriver. Et du coup, mes lésions cancéreuses auraient pu circuler dans sa circulation à lui. Et il y aurait eu un risque qu'il développe aussi quelque chose. Donc, il a été surveillé très près aussi par les mêmes dosages, des dosages d'HCG et d'autres marqueurs tumoraux. Voilà. Mais là, il va avoir un an au mois de novembre. Et du coup, la surveillance s'estompe. Et pour l'instant, tous les voyants aussi sont au vert. Tout va bien pour lui. Donc, voilà.
Bon, bah que des belles nouvelles. Et
c'est
puis
ça,
quel plaisir
que
d'entendre
nouvelles.
Le mot rémission pour toi en cette fin d'épisode, c'est top.
Voilà.
Bon, bah super. Un grand merci Marine.
Et ben merci beaucoup à toi Marielle.
Je suis ravie de t'avoir reçu à mon micro et je trouve ça bien aussi que tu aies réussi à à comprendre ce que ton rôle d'infirmière avait pu apporter dans tout ce que tu as vécu, ouais, ça peut rendre les choses assez différentes. Et je suis très heureuse de savoir que ça va mieux pour tout le monde. Une belle histoire qui se finit bien, malgré les circonstances.
Une belle happy ending.
Exactement, ça fait du bien. Merci beaucoup, Marine.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Comme le dit Marine, quel bonheur de finir sur une happy end comme celle-ci. Nous avons discuté en off des ouvrages qui avaient aidé son fils aîné à comprendre le parcours de soins de sa maman. Vous retrouverez donc en description de cet épisode quelques références utiles. Merci pour vos nombreuses écoutes. Je suis ravie que cette troisième saison du podcast vous plaise autant. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.